ne perd pas les bonnes habitudes. Dès que s'installe l'été, le débat de midi prend ses quartiers sur France Inter. On aborde des sujets de société avec des invités qui ne sont pas d'accord. Et l'ambition, eh bien, c'est d'alimenter votre réflexion à l'heure du déjeuner. On attaque avec un vieux débat, interminable débat, jamais clos, souvent clivant. Celui du cannabis, parce qu'à force de dire que ce débat est vieux, on ne le repose vraiment jamais sur la table. La loi en la matière date de 1970. En France, la consommation de cannabis est un délit pénal qui peut, en théorie, vous conduire en prison. Peut-on parler d'un échec de la politique répressive ? Faut-il sortir le cannabis de la catégorie des stupéfiants ? La dépénalisation serait-elle une incitation à la consommation ? Les raisons de se reposer ces questions ne manquent pas ces jours-ci. Il y a eu les coffee shops qui fleurissent dans l'Hexagone et qui vendent du cannabis présenté comme « light ». Des établissements ont été fermés la semaine dernière, leurs gérants mis en examen. Il y a le cannabis thérapeutique, le gouvernement a promis d'avancer sur le sujet. Mais il y a aussi le Canada qui vient de franchir le pas de la légalisation. Et ce n'est pas rien, parce que si beaucoup de pays dans le monde ont dépénalisé l'usage et la détention de cette drogue douce, très rares sont ceux qui lui donnent un cadre légal. Cannabis, la France est-elle dans l'hypocrisie ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités autour de cette table. Éric Poulia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de Gironde, auteur d'un rapport parlementaire qui recommande au gouvernement de sanctionner par une amende forfaitaire les consommateurs qui seraient pris la main dans le sachet de cannabis. On va y revenir. Nicolas Pris est là également, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, autrement dit la MILDECA. Et puis à vos côtés, William Louwenstein, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes médecin addictologue, président de l'association SOS Addiction. Et vous faites partie d'un gang, hein. C'est comme ça que se présente votre club des cinq, un groupe de cinq médecins, dans lequel on trouve notamment Bernard Kouchner, et qui publie un livre collectif, donc, intitulé « Toxique, le combat de cinq médecins de la drogue » chez Odile Jacob. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur tout, hein, tous les cinq, apparemment, mais vous écrivez sans ambiguïté que vous êtes pour la légalisation du cannabis. On va y revenir, évidemment. Un mot d'abord sur ces fameuses boutiques, si vous le voulez bien, hein, ces magasins qui se présentent comme des coffee shops et qui profitent d'un flou juridique pour vendre du cannabis dit « light ». C'est un cannabis à très faible dose de THC. Trois gérants ont été mis en examen vendredi dernier, hein, c'est tout frais. Leurs boutiques ont été fermées. Il n'est pas inutile d'expliquer, de rappeler ce flou juridique, Nicolas Pris.
Oui, enfin, je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un flou juridique.
C'est leur argument pour justifier leur existence.
En tout cas, il y a certainement des failles dans le droit aujourd'hui qui font que, et ça c'est nouveau, je pense, sur les diverses questions relatives au cannabis, qui sont, et vous l'avez rappelé, la question du cannabis récréatif, le CBD, les cannabinoïdes thérapeutiques,
CBD, cannabidiol.
On a aujourd'hui une offensive très très forte de commerçants ou d'investisseurs. Il y a des projections qui sont extrêmement attirantes pour les investisseurs, notamment outre-Atlantique, mais bientôt en Europe. Et donc, on a aujourd'hui une catégorie de chefs d'entreprise et de commerçants qui foncent dans ce que notre droit a sans doute un peu de plus faible aujourd'hui pour ouvrir qui des boutiques qui vendent du cannabidiol, qui des gros shops pour faire son marché, pour faire de la cannabiculture chez soi, qui ceci ou cela, mais qui nous, effectivement, nous interpelle, nous les pouvoirs publics, pour savoir ce sur quoi on doit lutter et comment on peut lutter. Alors, sur la question juste juridique, les choses ne sont pas si confuses que ça. Les produits à base de cannabis sont interdits à la commercialisation en France. Ça, c'est le cadre général. Il y a des exceptions pour permettre à une filière qui est celle du chanvre, notamment industriel.
Donc le textile, hein, le chanvre.
Le textile, les panneaux pour faire de l'isolation, etc., des revêtements de sol et tout. Il y a des exceptions qui ont été permises par le législateur afin de permettre à des gens qui travaillent ces produits d'être dans la légalité. Mais
donc la législation, c'est un taux inférieur à 0,2% de THC.
Dans la plante.
Dans la plante.
Dans la plante. C'est aussi l'interdiction d'utiliser les fleurs de la plante. C'est aussi, évidemment, ne pas faire de la publicité mensongère pour des vertus thérapeutiques présupposées d'un certain nombre de produits qu'on met en vente. Et enfin, évidemment, ne pas être dans l'incitation à l'usage de stupéfiants.
Parce que pour vous, il n'y a pas de flou, en fait. C'est très clair, c'est interdit ce que font ces boutiques.
Il faut regarder au cas par cas, mais la plupart du temps, aujourd'hui, ne serait-ce... Attendez, jouer sur l'ambiguïté, coffee shop, cannabis légal, enfin...
Cannabis
light.
On met des guillemets à tout ça, bien
sûr. Faut pas se moquer du monde. On sait très bien que là, il y a des gens juste pour faire de l'argent qui sont en train de se, effectivement, de surfer sur une lame qui est assez étroite. Donc, à ne pas, juste, je pense qu'il faut faire, c'est ne pas nous faire enfermer par ces personnes pour prendre des décisions qui seraient trop rapides. Il faut regarder la science, rien que la science, la recherche pour protéger.
On entre dans le vif du débat dans un instant. J'attends vos questions et commentaires, chers auditeurs, par courriel. Ça se passe sur ledebatdemidi@radiofrance.com, sur l'application France Inter ou sur Twitter, hashtag débat de midi. Émission préparée par Irène Menahem, réalisée par Fabrice Lègle. Selim Guerribi est à la technique et c'est Jean-Baptiste Audibert qui choisit la musique. Les émissions d'été se sont installées sur France Inter. Vous écoutez le débat de midi? Et vous faites bien, il est midi 12, tout pile.
La pluie ne tombe pas,
y'a pas d'eau,
la neige qui fond là-bas,
ça c'est chaud,
arrêtons les débats,
là c'est chaud,
il frappe ici et là,
El Niño.
C'est Jojo et lieutenant Nicholson sur France Inter. On parle de cannabis jusqu'à 13h.
Mon objectif, c'est bien de faire en sorte qu'on ne vende pas de stupéfiants de façon légale en France.
Alors en France, les coffee shops ont ouvert en se basant sur une règle européenne. On peut vendre du cannabis avec du cannabidiol et avec du THC, mais seulement avec une dose infime de THC, 0,2%.
Ils reconnaissent que le Canada est en train d'être audacieux en contrôlant, en réglementant la vente du cannabis.
Alors, autre stratégie, ici des gâteaux à base de CBD, donc de cannabidiol.
C'est toi, François?
Ça va pas?
T'as fermé la porte?
Ouais, pourquoi?
Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure.
Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison.
L'âge légal pour fumer du cannabis au Québec sera de 18 ans. Yeah!
Tant que tu écoutais Mick Jagger et les Rolling Stones, je disais rien, mais que tu fumes du haki, non!
Le droit français est très clair. Aucun produit contenant des stupéfiants n'est autorisé à la vente, quelle que soit la dose, en France.
Le débat de midi sur France Inter.
On vient d'entendre la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur notre antenne la semaine dernière. Vous avez aussi entendu dans ce montage préparé par Fabrice Laigle, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Le Canada, on le disait, vient de légaliser l'usage et la détention de cannabis. Est-ce qu'on peut y voir un exemple, Nicolas Prise? Je rappelle que vous êtes le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues. L'effet boule de neige, est-ce que ça existe réellement? Parce que c'est le premier pays du G7 à franchir le pas, on l'a beaucoup lu.
Oui, en tout cas, c'est une expérience qui sera intéressante à suivre. Mmh. Elle sera évaluée. C'est un système qui est très contrôlé par l'État, hein, qui va être mis en place au Canada. L'équivalent de la Direction générale de la Santé dans l'État fédéral a recruté 400 agents inspecteurs pour contrôler depuis la production jusqu'au moindre bureau de distribution comment les choses vont se passer. Et 400 millions de dollars sont mis sur la table pour prévenir la consommation chez les plus jeunes, parce qu'ils ont quand même une inquiétude, j'ai parlé avec mon homologue canadien récemment, c'est qu'il y a un appel pour les jeunes. Or, le cannabis, ça je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus, sur des cerveaux en maturation, c'est un produit dangereux. Donc une expérience intéressante, une expérience qui peut donner des idées en fonction des contextes nationaux, mais attention à avoir les moyens de suivre l'expérience.
William Lowenstein, je rappelle que vous êtes médecin addictologue, vous allez regarder de près, j'imagine, ce qui se passe au Canada, ça commence en octobre. Hein.
Bien sûr, en vous rappelant qu'il y a des pays aussi qui ont essayé de sortir de la prohibition avec d'autres voies. Le Portugal, il y a déjà presque 18 ans. Beaucoup d'États, si j'ose dire en tout cas 9 américains, hein, même si au niveau global, il n'y a pas de légalisation. Et la Californie, notamment, a travaillé beaucoup le sujet. Et enfin, le Canada, et ce que j'en ressors, c'est que tous, ils ont fait le constat de l'échec des équipes qui perdaient, c'est-à-dire la prohibition, que ça ne protégeait ni la société, ni l'individu.
C'est une équipe qui est très répandue pour l'instant, hein,
la prohibition. Oui, je pense, mais à force de perdre, même si ça fait 50 ans, si vous voulez, les sélectionneurs ne peuvent plus justifier de telle ou telle méforme. Donc là, il y a eu surtout un travail de fait. Ce qui m'inspire dans l'exemple du Canada, c'est-à-dire que l'État canadien a donné les moyens pour travailler le sujet et essayer, pendant, je crois, 2 ans minimum, de définir une politique de régulation qui ne soit pas simplement la légalisation, comme on l'entend dans l'esprit des gens. Légaliser, c'est réguler. Mais il faut s'en donner les moyens en nombre de personnes, mais aussi en millions de dollars canadiens ou en millions d'euros. Si on veut sortir de cet échec, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas très bon sur la prévention du cannabis, ni chez les plus jeunes, ni sur la sécurité publique. C'est-à-dire, si on veut associer enfin santé publique et sécurité publique, plutôt que de les opposer, eh bien, on entendra Éric Pouillat sur le volet, si j'ose dire, sécurité publique. Maintenant, il faut qu'on fasse la même chose dans le domaine santé publique.
Alors, au Canada, le vote est tout récent, mais vous savez que l'Uruguay n'est pas seulement le futur adversaire de la France pour la Coupe du Monde de foot, c'est aussi le premier pays du monde qui avait légalisé Absolument. Le cannabis en 2014. Qu'est-ce que ça donne 4 ans après?
Quatre ans après, on a eu une conférence dernièrement d'une des représentantes. Moi, j'ai travaillé en Uruguay, fait quelques missions il y a 15 ans. Et je me souviens des Uruguayens qui étaient admiratifs par rapport à notre système et avides de nos paroles. 15 ans après, c'est l'inverse. On a beaucoup à apprendre de leur expérience, beaucoup à apprendre de leur volonté, eux surtout, de casser la menace du narcotrafic. On a parlé du Mexique tout à l'heure dans les informations. Est-ce que ce gouvernement de gauche, enfin, pourra faire quelque chose contre l'immense corruption mexicaine et la mortalité qui va avec? Là, l'Uruguay a dit, nous, on va légaliser pour protéger notre société.
Solution à suivre, donc. Exemple à suivre, Nicolas Prise, l'Uruguay?
Oui, enfin,
je rappelle que vous dirigez la mission interministérielle de lutte contre la drogue.
Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est les résultats objectifs de ces expériences et les résultats indépendants. Je veux dire, aujourd'hui, je le rappelais au tout début de votre émission, il y a de tels enjeux financiers. On estime qu'en Amérique du Nord, le marché est de 25 milliards de dollars en 2025. En France, c'est déjà, même dans le régime d'interdiction, le chiffre d'affaires de la vente de cannabis en France, c'est plus de 1 milliard d'euros par an. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui font des profits.
On a parmi les politiques les plus répressives et la consommation parmi les plus hauts niveaux d'Europe. Hein.
Pardon de le rappeler, je le fais souvent, mais ça c'est un raccourci qui est un peu court. On a aussi eu des politiques de prévention qui n'ont pas été assez intelligentes, des programmes de prévention qui n'ont pas été suffisamment développés et une lutte contre le trafic qui a parfois un peu baissé les bras. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'effectivement on a des niveaux de consommation importants, mais il faut le rappeler, début 2018, on a eu un résultat de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui nous montre quand même que chez les jeunes de 17 ans, la consommation est plutôt en baisse aujourd'hui en France. Je reviens juste une seconde sur la question de la comparaison internationale. Compte tenu des enjeux à l'heure actuelle et des influences qui existent de la part de tas de milieux qui veulent prendre la part du gâteau, il faut faire très attention aux données dont on dispose pour évaluer clairement ces expériences internationales.
Vous voulez dire que les lobbies sont très forts sur ce sujet-là.
Exactement. Et les lobbies vont nous pousser à dire tout et n'importe quoi dans ce domaine-là. Moi, je connais une seule étude qui a comparé ce qui s'est passé dans l'État du Colorado, dans l'État de Washington et en Uruguay, suite aux différentes formes de légalisation-régulation. C'est l'étude Canalex qui a été menée par l'Institut National des Hautes Études de Stratégie et de Justice et l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Ben, les résultats ne sont pas mirobolants non plus. On a une augmentation des consommations, on a une augmentation des recours aux urgences.
Augmentation temporaire, dit-on souvent. Après, ça se stabilise.
Oui, enfin, dit-on, mais qui nous dit ça? Et on a une augmentation des recours aux urgences pour des intoxications cannabiques. Mais par ailleurs, on a des choses intéressante aussi, il faut le reconnaître.
Venons-en tout de même à cette amende, parce que c'est important, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Éric Poulia, je rappelle que vous êtes député La République En Marche, et vous avez rédigé avec Robin Reda, député lui LR, un rapport d'information qui a été remis en janvier au gouvernement. Vous avez interrogé du monde pour faire ce rapport, des policiers, des magistrats, des experts, des usagers du cannabis. Quel est votre état des lieux sur la politique pénale en vigueur aujourd'hui en France? Est-ce que vous la qualifiez de très répressive?
Alors oui, elle est très répressive sur le papier.
C'est-à-dire qu'effectivement,
Et dans les faits, non. C'est bien là toute notre ambiguïté. Vous parliez d'hypocrisie pour annoncer ce débat. Je pense que là, il y en a une aussi quelque part. Effectivement, nous avons un arsenal extrêmement répressif dans les textes.
Qui n'est pas appliqué.
Et en réalité, si vous voulez, il y a un aménagement qui s'est mis en place qui fait que, notamment pour l'usager de cannabis, la plupart du temps, on finit par un rappel à la loi.
Donc un rappel à la loi, pour le dire aux auditeurs, c'est quand on est convoqué au commissariat pour nous dire c'est pas bien ce que vous avez fait.
Vous avez été arrêté et on vous donne un petit papier pour vous dire que le procureur vous dit que c'est pas bien de faire ça et que si vous recommencez, vous allez avoir des problèmes.
Donc ni amende, ni prison, ni rien.
Rien. Donc effectivement, vous avez ce qu'on appelle une dépénalisation de fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez plus en prison et vous n'êtes même plus réprimé réellement pour consommer. Alors je pense que c'est surtout sur le cannabis, parce que nous avons étudié l'ensemble des stupéfiants, mais surtout sur le cannabis, vous avez une dépénalisation de fait où la personne ne se sent plus forcément menacée par la réponse pénale et donc une banalisation de la consommation.
Donc votre conseil, au terme de ce rapport, c'est de passer à l'amende, d'oublier les peines de prison, d'oublier les rappels à la loi, et à chaque fois qu'un consommateur de cannabis est pris la main dans le sachet, il paye une amende forfaitaire qui sera toujours la même. Alors on parle de 300 euros, ça sera sans doute moins finalement. C'est ce que vous me disiez avant l'émission.
En tout cas, moi, je souhaite que ce soit moins.
Pourquoi, d'ailleurs, on va
tout faire pour. Tout simplement parce qu'il faut recouvrer l'amende. L'intérêt de cette amende, c'est qu'elle puisse profiter à la prévention, notamment, qu'il puisse y avoir un fonds Mildeca, un fonds de prévention, ou un fonds spécifique, en tout cas, qui puisse agir vers les mineurs. Rappelons que l'amende ne concerne pas les mineurs, que les politiques de régulation ne concernent jamais les mineurs, c'est toujours pour les adultes. Et donc, les mineurs sont toujours écartés de tout dispositif, que ce soit de légalisation, de régulation, de dépénalisation. Ce que vous voulez.
Ce qui est intéressant avec ce projet d'amende, Éric Poulia, c'est qu'on pourrait y voir une forme de laxisme, puisque pour l'instant, dans la loi de 70, il est écrit que le cannabis peut mener en prison. Vous dites non, amende, et en réalité, puisque la loi n'était pas appliquée, est-ce que ce n'est pas une manière de durcir la politique pénale en termes de, sur ce qui concerne le cannabis en France ?
Verre à moitié plein, à moitié vide.
Il est comment pour vous, ce verre ?
Ah ben, pour moi, il est en tout cas le fait qu'on fasse évoluer la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, on sort de cette hypocrisie, encore une fois, d'avoir une réponse soi-disant très dure, et au final, pas du tout. Donc on a une réponse partout égale sur l'ensemble du territoire, qui sera la même pour tout le monde, parce que là aussi, il y avait une injustice territoriale. Donc, ça sera la même pour tout le monde. Et elle sera immédiate. Donc,
injustice territoriale
C'est-à-dire qu'en fonction
grand trait, ça donne quoi sur la géographie
En fonction
française.
De là où vous étiez arrêté, vous n'aviez pas la même... parfois, vous n'aviez rien, puisque les forces de sécurité... un petit peu, parfois dans les quartiers un petit peu sensibles ou dépassés, détruisaient le
en
produit.
En fonction de la fréquence du délit, en fait, finalement.
Oui, et puis c'est surtout, ça dépendait de quel produit, de la quantité, etc. Il y a ce qu'on appelle les politiques des parquets, les politiques pénales des parquets, qui font que, aussi, en fonction des territoires, on essaye d'avoir une réponse assez juste, une réponse judiciaire assez juste. Donc, Ça contribue aussi au fait qu'à un moment donné, se met en place une forme d'inégalité et l'amende va rétablir, pour moi, cette égalité.
A priori, l'application de cette amende, c'est prévu pour janvier 2019 environ.
Oui, ça sera dans la réforme du code des procédures pénales prévue pour le mois d'octobre, donc je pense pour l'année prochaine.
Et les policiers qui sont un peu débordés par le cannabis attendent ça de pied ferme, j'imagine.
Les policiers, ce qu'ils veulent, c'est surtout des procédures courtes, simples. Ils ont conscience que réprimer fortement, durement le consommateur n'est pas la clé pour lutter contre le trafic de stupéfiants, ils le savent. Et notre volonté à nous, c'est de réorienter cette lutte vers le trafic. Et ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'on ne met plus de moyens sur la lutte contre le trafic et qu'on l'oriente plutôt vers la consommation. Il faut changer, basculer cette logique, le retourner vers la lutte contre le trafic et effectivement avoir une logique un peu systématique et un petit peu égalitaire en termes de répression sur les consommateurs.
William Lowenstein, je rappelle que vous êtes médecin addictologue et que vous êtes favorable, vous, à une légalisation du cannabis. Qu'est-ce que vous pensez de cette amende ?
C'est bien de rappeler que je suis médecin parce que c'est vrai qu'on finit par trouver cohérent des discussions qui sont quand même quasi extraterrestres. Dire c'est un problème. Vous n'allez plus en prison pour avoir consommé du cannabis, quoi. Aller en prison pour consommer du cannabis. Est-ce qu'on entend tout ce que ça veut dire comme ineptie, quoi ? Même, je dirais, au début du XXe siècle, avec la prohibition de l'alcool, j'ai l'impression que c'était moins débile, qu'il y avait une sorte de projet de santé publique. Là, voilà, sortons déjà de ça. Mettre quelqu'un ou menacer quelqu'un de prison au XXIe siècle pour avoir fumé du cannabis, je voudrais qu'on en finisse avec ce regard, mais qu'il y a quelque chose de moyenâgeux. Quoi,
là-dessus, vous avez gain de cause, en tout cas, mais bon, vous n'êtes pas satisfait non plus, j'imagine.
Non, alors, après, deux choses. Par rapport à Nicolas et les arrière-pensées commerciales...
Nicolas Pris,
président de la Mildeca, mon cher Nicolas... voilà, bien sûr qu'il y a les intérêts commerciaux. Et vous connaissez mieux que quiconque la force de ces lobbies quand il y a des intérêts commerciaux. Et je ne citerai pas le lobby de l'alcool en France, mais j'y pense fortement. Mais je préfère à la limite parfois que ça soit des réseaux commerciaux qui fassent les lobbies que les réseaux mafieux. Et donc c'est aussi une idée de la régulation à un moment donné. C'est d'arrêter d'enrichir sans cesse Mafia sans frontières. Les points, le rapport d'Éric Pouya et de son collègue est un rapport, si j'ose dire, en adéquation avec sa fiche à lettre de mission. C'est-à-dire comment sortir de cette histoire hypocrite, vous disiez, de pénalisation, qui amène certains quand même en prison encore. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais toujours est-il que j'aimerais bien qu'on ait le même rapport sanitaire. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, on a parlé du Canada, on a parlé d'autres pays, pour justement évaluer, penser un système, se mettre au travail. Qu'est-ce qu'on fait de la prévention ? Est-ce que ça va changer quelque chose, cette contravention ? Je vais pas dire autour de la table, nous sommes d'accord, ça va pas changer grand-chose sur l'aspect sanitaire, mais c'est pas ce qui a été demandé à notre député, que les choses soient claires. Mais pourquoi on demande pas des choses sanitaires aussi ? Quand est-ce qu'on sort de cette absence de considération, soit pour le vaccin...
Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire qu'il faut un groupe de travail financé qui soit quasiment à plein temps. On a parlé de 400 agents au Canada. On pourrait parler, je crois, de 163 millions de dollars canadiens qui ont été investis pour faire une loi. Je veux bien qu'on soit tous bénévoles en France, mais entre la DGS, la Medica, l'HAS, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, quand est-ce qu'on bosse sérieusement le sujet,
William,
et pas simplement sur France Inter?
Lowenstein, on le disait à l'instant, cette histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment on regarde les choses. Vous, pour vous, cette amende forfaitaire, c'est un durcissement de la politique pénale en matière de cannabis?
Non, j'espère que ça sera pas un durcissement, j'espère pas.
Si tout le monde, si tout le monde est coupable d'une amende, c'est un durcissement.
Non, j'espère vraiment qu'en pratique, d'où la nécessité de l'évaluer. On en parlait tout à l'heure avec notre député. L'idée est surtout pas de durcir. Par contre, si c'était le cas, il faudrait pouvoir le dépister.
Vous avez envie d'y voir un premier pas vers la légalisation?
Une sortie de l'obscurantisme, oui. Premier pas de sortie de l'obscurantisme.
Éric Poulia, est-ce un premier pas vers la légalisation, cette amende?
Alors, vers la légalisation, bien sûr, je comprends que c'est le sujet, donc je comprends le lancement, mais c'est surtout, comme ça a été dit, c'est avoir une réponse claire. Clair, identifié et sur lequel tout le monde puisse se retrouver. Après, je pense qu'il faut la logique ne peut pas être uniquement répressive, que ce soit contre les consommateurs ou les trafiquants. Elle doit être aussi une logique, on l'a dit, de prévention, éducative. Et elle doit être aussi une logique thérapeutique, sanitaire. Donc, je suis complètement favorable. Et là, je pense que la ministre Agnès Buzyn l'a dit très clairement. Il faut avancer sur la question du cannabis thérapeutique. Il faut faire rentrer le cannabis dans la pharmacopée de manière franche. Ça a déjà été plus ou moins le cas, mais disons que Il faut continuer d'avancer sur ce sujet, et je pense que à ce titre-là, on aura déjà, on peut avoir des gains déjà sanitaires, thérapeutiques en tout cas en termes de légalisation du cannabis.
Alors je voudrais vous lire quelques réactions d'auditeurs. Xavier nous écrit ceci par courriel. Nous produisons beaucoup d'alcool, de l'alcool légal, et pour le cannabis, on laisse les mafias en tirer les richesses. L'État dépensait des millions en répression, moyens policiers, en justice et en place de prison. La prohibition n'a pas servi de leçon, dit-il. On a beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Ancienne consommatrice de cannabis, nous écrit Maya, j'ai de plus en plus de mal à comprendre cette diabolisation. Elle parle de diabolisation du cannabis, alors que voilà, certains ont vu dans cette amende forfaitaire, au contraire, une forme de discours inverse. Que feront-ils pour des personnes qui vivent en grande vulnérabilité et qui n'ont pas de l'argent pour payer les amendes, nous demande David, par rapport à cette amende de 300 euros. Est-ce que ça ne va pas creuser encore plus l'écueil entre les consommateurs non problématiques et ceux qui ont des problèmes d'abus? Nicolas Price.
La réponse, elle est un peu dans dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'évoquaient Éric Poulia et William Lowenstein, c'est la question de la prévention et du repérage précoce. On est en retard sur le sujet, ça, c'est très clair.
Est-ce qu'on est en retard parce qu'on refuse justement de réfléchir clairement à la dépénalisation?
D'une manière générale, sur les questions de santé, on est en retard. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a envie de faire la révolution de la prévention annoncée par le président de la République. C'est quand même, ça a été souvent voulu, mais ça n'a jamais totalement abouti, cette question.
Et puis peut-être qu'on a eu l'illusion que la prohibition allait protéger.
Peut-être
qu'on a eu la prohibition, absolument, allait servir de prévention. C'est pour ça qu'on peut en vouloir encore plus à la prohibition, parce absolument qu'elle n'a pas protégé. Elle a empêcher, si j'ose dire, les initiatives, d'autres initiatives qui, elles, auraient été vraiment préventives.
Absolument. On est dans un pays où la réflexion de santé est essentiellement curative.
Exactement.
Où les professionnels de santé eux-mêmes ont du mal à se saisir de cette question. Quand vous allez chez votre médecin, se faire interroger sur la consommation de tabac, se faire aider sur sa consommation d'alcool, demander simplement si on n'a pas un problème avec besoin d'avoir de plus en plus de joints Camille. Les médicaments. Pour beaucoup de médecins, c'est pas un réflexe évident. Et sur les campagnes de prévention primaire, on a eu pendant longtemps l'illusion que c'était avec des slogans, avec des « c'est pas bien et ça fait pas de bien », etc., qu'on allait gagner la campagne vis-à-vis des plus jeunes. On sait aujourd'hui ce qui marche. Alors c'est des choses
qui marchent.
Non, c'est des choses qui sont pas très sexy. C'est pas juste une loi ou un décret. C'est pas des mesures très simples à expliquer. C'est des mesures d'abord de moyen terme, et ça, il faut l'accepter. C'est des mesures qui ont trait à l'accompagnement des parents quand ils ont des difficultés, parce que la prévention, ça se joue extrêmement tôt dans un climat familial qui permet de venir en aide à une famille en entier, qui permet ensuite ensuite, avec l'aide de l'éducation nationale qui fait des progrès considérables sur le sujet et pour lequel il y a eu là aussi des évaluations qui marchent, de renforcer ce qu'on appelle les compétences psychosociales des jeunes. C'est-à-dire en gros la confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous-même, moins vous avez recours à des conduites un petit peu à risque, que ce soit la consommation de stupéfiants, la consommation d'alcool ou d'autres types de violences envers vous-même ou envers les autres. Alors c'est des choses qui sont très lentes, avec des savoir-faire...
Moins spectaculaire qu'une légalisation.
Moins spectaculaire, c'est évidemment pas un texte, tac, on va dire, demain la prévention c'est ça. Mais c'est ça qui fonctionne. Et c'est ça qui commence quand même à fonctionner. Je vous rappelais tout à l'heure les premiers chiffres un petit peu encourageants.
Une forme de contradiction quand même avec cette idée de parler beaucoup de prévention et à la fois de faire un chemin qui s'avance vers la dépénalisation. Est-ce que ça peut donner l'impression que l'autorité publique est contradictoire, Éric Poulia?
C'est-à-dire que ça dépend sous quel angle on se pose. Si effectivement on est sur un angle sanitaire, on doit faire de la prévention.
Et ça n'empêche pas de dépénaliser
ou
d'assouplir les règles.
C'est un produit psychoactif. C'est un produit qui est toxique pour le corps humain. C'est sympa d'entendre Coluche tout à l'heure qui disait Gérard, tout ça. Enfin, faut rappeler quand même qu'on se fait du mal quand on prend un produit stupéfiant. Donc, même si la plupart du temps, en plus, on en sort. Donc, la prohibition aussi peut-être contraint un petit peu à ce niveau-là. Moi, je voudrais juste revenir sur la question curative et la question économique parce que elles sont liées. On dit souvent, effectivement, que ça peut dégager de la richesse, la légalisation. Bon, je veux dire, vous avez l'exemple.
En recette fiscale,
voilà,
pour l'État.
Voilà, tout à fait. Bon, vous avez clairement l'exemple avec l'alcool et le tabac, comme quoi que ça marche pas. Hein. On dégage de la recette fiscale sur les deux. Et le coût en termes de soins est largement supérieur. Et le coût social est quasiment 10 fois supérieur.
Ça coûte toujours de l'argent, vous
voulez
dire.
Ça coûte jusqu'à 10 fois plus que ce que ça rapporte.
Donc, argument intéressant parce que beaucoup d'auditeurs nous interpellent sur ce sujet.
Je sais bien, mais c'est un vrai argument. Parce que nous sommes
Donc les malades de l'alcool et du tabac nous coûtent plus cher que ce qu'on a gagné en recettes fiscales sur ces produits.
Bien évidemment, et ça, il n'y a personne pour le contredire. Et donc si on rajoute un autre produit psychoactif, on se rajoute un autre problème d'un point de vue économique.
Allez, il est déjà là un problème.
Oui. On en reparle dans un instant, William Lovenstein, juste après Ben Harper sur France Inter. Le débat reprend dans un instant. Nouvel album aux accents blues pour Ben Harper avec Charlie Musselwhite à l'harmonica. J'attends donc vos réactions, vos questions. Et on arrête le débat pendant le disque, là. Qu'est-ce qui se passe? Le débat de midi sur Twitter, hashtag débat de midi. Bienvenue à tous.
Everybody under the sun, I found the one. If you're gonna gamble, may as well be on love.
Found the one.
May have had something before.
Found the one.
But now you can't get enough. Before it's all said and done,
you'll never see 'em again.
Found the One, extrait du nouvel album de Ben Harper sur France Inter. On parle de cannabis dans le débat de midi avec Éric Pouliard, rapporteur, auteur d'un rapport parlementaire sur le sujet, avec Nicolas Pris, le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue, et avec William Lowenstein, qui est addictologue et qui co-signe avec Bernard Kouchner notamment un livre intitulé Toxique, qui milite, si je peux employer ce terme, pour la légalisation du cannabis. On a bien compris avec vous trois que la prévention était très importante, que le sujet était beaucoup plus nuancé et compliqué qu'il en avait l'air. J'aimerais néanmoins vous poser la question de manière très simple. J'aimerais une réponse et un argument. Oui. Êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis ? On commence avec vous, William Lowenstein, parce qu'on connaît la réponse.
Oui.
Et pourquoi ?
Oui, mais ça ne va pas être pourquoi. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que si on pense, et on le voit, et Eric l'avait rappelé tout à l'heure, qu'il suffit de légaliser pour protéger, on voit bien avec l'alcool et le tabac. Enfin, on est bien placé en France pour voir qu'interdire le cannabis, ça suffit pas pour protéger, que légaliser l'alcool et le tabac, ça suffit pas pour protéger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais rajouter, travailler, et enfin, considérer les addictions comme des sujets dignes de ce nom. On peut pas à chaque fois dire on va envoyer les gens en prison, on va faire la révolution, sans à côté se donner les moyens du travail que je citais tout à l'heure. Changeons de regard. Je connais que l'Afrique et les toxicomanies qui aient aussi peu de considération, si j'ose dire, par rapport à la médecine et aux tutelles.
La France est hypocrite en la matière pour vous ?
La France n'a aucune compassion pour les personnes souffrant d'addiction, oui. C'est émotionnellement regrettable, mais c'est comme ça.
Niveau d'addiction d'ailleurs, puisqu'on parle de drogue douce et de drogue dure, il y a cet argument qui revient souvent de l'escalade, la drogue douce qui serait un chemin vers la cocaïne.
Bon, ça, on oublie la théorie de l'escalade depuis 1978.
C'est intéressant.
La série, qui fume un œuf s'injecte un bœuf, il n'y a pas plus stupide, mais ça fait toujours plaisir à certains extrêmes. Laissons passer ça. Par contre, ce qui est vraiment, je pense, intéressant maintenant, c'est de ne plus, comme Coluche le faisait, séparer alcool et cannabis. Tout le monde consomme tout. Donc essayons d'avoir une politique globale de prévention, de réduction des risques et surtout de consultation jeunes consommateurs, fait pour les jeunes consommateurs, mais aussi les parents. On a rappelé, Nicolas Pris l'a fait.
Des campagnes de com' partout, comme on en a pour le tabac et l'alcool, pour dire que c'est dangereux.
Traitons le sujet avec sérieux et considération.
Nicolas Pris, légaliser, oui ou non ?
Plutôt non à ce stade, et en particulier pour une raison, le tabac, l'alcool, c'est des produits qui sont interdits de vente aux mineurs en France. Ça, c'est pas respecté par personne, et les jeunes nous disent qu'ils ont un accès hyper facile au tabac et à l'alcool. Donc si un jour... Si un jour... ce qui va être proposé prochainement est évalué, qu'on voit que ça ne fonctionne pas bien, que ça n'apporte pas grand-chose en termes de protection, et qu'on arrive en parallèle à faire bien respecter les interdits protecteurs, donc qu'on arrive...
Comment ?
Ah ben non, mais c'est un vrai sujet. Non, mais ça, il y a du travail sur le sujet. Mais mettre aujourd'hui sur le marché du cannabis en vente légale, je pense qu'on aura une augmentation de la consommation chez les plus jeunes. Et ça, je ne le veux pas.
Même question, Éric Pouliard. Légalisation, oui ou non ?
Alors, dans le champ récréatif, non, clairement. Parce que je pense qu'effectivement, on n'est pas prêt, on aura des effets induits qu'il va falloir assumer collectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui se posent comme question. En revanche, dans le champ thérapeutique, oui, il faut une évolution de la législation, très clairement. Après, je pense qu'il faut commencer, avant toute forme de régulation ou de légalisation, il faut commencer par une vraie volonté politique de prévention. Et à partir de là, on pourra peut-être aussi agir sur les mineurs, parce que je pense que c'est vraiment là l'essentiel. C'est le moment où les addictions, ou disons les comportements se mettent en place, les pratiques se mettent en place, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut lutter. Après, clairement, la majorité des jeunes en sortent, autour de 25-26 ans, je crois qu'il y a des chiffres qui disent qu'on sort... majoritairement du cannabis notamment.
Et non pas pour fumer un bœuf, comme disait William Weinstein.
Tout à fait. Attention à la polyconsommation qui se développe quand même.
Donc consommation cannabis, cocaïne, etc.
Voilà, qui est essentiellement dû d'ailleurs qui est essentiellement dû aussi à la pression des vendeurs. Donc c'est pour ça que je pense que l'essentiel, c'est de lutter contre les marchands hein, parce qu'on dit trafic, mais trafic, ça ne veut rien dire. Il y a des gens derrière, il y a des marchands, et donc il faut lutter contre eux qui sont là que pour se faire de l'argent. Ils sont loin de toute considération législative, thérapeutique ou quoi que ce soit.
Je crois même qu'ils rigolent en nous écoutant.
Voilà, je pense qu'ils rigolent bien en nous écoutant.
S'ils en sont encore là, tout voilà, va bien. On a encore quelques années devant nous de...
Exactement.
De travail. On entend que vous êtes tous les trois plutôt favorables, hein, très favorables à l'utilisation thérapeutique du cannabis. Là, il y a un consensus qui se dessine en France. Hein, la récente étude de Terra Nova a montré que plus de 80% des Français étaient pour un usage médical du cannabis. Agnès Buzyn a dit que c'était une question de semaines ou de mois.
Déjà l'opium et la morphine, pourquoi on voit mal
comment,
pas le cannabis,
on voit mal comment l'un n'aurait pas d'influence sur l'autre, le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif, William Lovenstein.
C'est vrai que c'est difficile, sans explication, de comprendre que le médicament qui est éventuellement donné à sa petite sœur pour lutter contre des crises d'épilepsie rebelle ou éventuellement à sa grand-mère pour diminuer les consommations d'anti-inflammatoires, de somnifères, d'antidouleurs, est un produit toxique qu'il ne faut pas utiliser à côté. Mais ça, c'est typiquement l'information, parce qu'on peut très bien avoir, Éric Pouillat vient de le dire, des opiacés, des opioïdes même, dont il faut se méfier parfois dans la prescription, la surprescription, très efficaces contre la douleur, et pas pour cela encourager la consommation d'héroïne. C'est là où il y a une maturité du discours et une construction de ce discours consensuel. Le cannabis thérapeutique, comment pourrait-on être contre des potentiels thérapeutiques qui parfois sont pas loin d'être prouvés vraiment dans certaines catégories, qui parfois demandent de nombreux travaux de validation encore, pour pas dire n'importe quoi. Enfin, comme médecin, c'est une perte de chance et de confort qu'on donne aux patients, et je crois que tout le monde autour de la table dit quand est-ce qu'on met ça en musique avec rigueur, qu'on soit pas dans le syndrome Sativex. Ça allait exister, c'est-à-dire on accorde un médicament, on fait la com' dessus, et puis 5 ans après, on n'a pas pu trouver d'accord pour des raisons économiques. Moi, je dis, les bonnes volontés, les avancées, je les perçois, je crois qu'on sort de l'obscurantisme, mais il faut qu'on ait les moyens de bosser, que des personnes comme le président de la Mildeca ou Éric Pouillat puissent développer leurs idées en application et les évaluer. Ça a été dit aussi, il faut le rappeler.
L'argument qui est de couper les ressources au trafic, hein, pour le dire simplement, est-ce qu'il fonctionne si on continue à pénaliser la consommation des drogues dures, Nicolas Prisse?
Peut-être le point sur lequel on ne sera pas d'accord avec Nicolas. Moi, je pense que quelque chose qui ne marche pas depuis 50 ans, avec des milliards de milliards d'etats anti-drogue, c'est compliqué parce qu'il y a 50 ans de retard sur les machines mafieuses. Mais je préfère que Nicolas Prisse.
Nicolas Prisse.
Non, juste, je voulais revenir avant sur ce que disait William sur les cannabinoïdes thérapeutiques. J'emploie le mot cannabinoïde parce qu'il y a 100, 200 substances dans un plant de cannabis.
C'est une manière de se cacher derrière son
non,
petit
non,
doigt,
mais parce que non,
c'est complexe,
c'est parce que c'est complexe, c'est de la rigueur. C'est-à-dire que moi, je veux pas justement laisser à certains l'opportunité de jouer sur une ambiguïté. Exact. C'est des sujets très différents. Il y a 100, 200 substances dites cannabinoïdes dans un plant de cannabis. Si on en trouve quelques-uns qui servent à des gens qui souffrent, c'est remarquable et il faut le faire. Aujourd'hui, c'est vrai, je crois que William l'a dit, la recherche montre pas des effets géniaux. Il y a des effets prometteurs pour certains.
Il y a l'épilepsie rebelle.
Mais il faut investir dans cette recherche.
Mais il faut investir dans cette recherche comme dans toutes les recherches. Voilà. Et il faut rester dans un circuit qui est rigoureux sur le plan scientifique, qui est le circuit du médicament en France, qui est un circuit qui nous protège, parce que il faut regarder les bénéfices, mais il faut aussi regarder les risques. Et ça, de ce point de vue-là, en France, je crois qu'on peut se satisfaire avec l'Agence du médicament, la Direction générale de la santé, d'avoir des gens qui nous protègent au maximum. Donc attention, là aussi, à ne pas faire céder trop vite quelques digues de rigueur.
Les mafias, les trafics et l'argent qui se déporterait, j'imagine, sur les drogues dures. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Nicolas Prisse? Si on dépénalise le cannabis, pourquoi le trafic ne se déporterait-il pas sur les drogues dites dures?
C'est un risque, ou de drogues un peu différentes. Ouais. On a ça dans l'étude Canalex, où il y a un déport d'une partie des trafiquants vers des produits qui ne sont pas offerts par le marché légal.
À quoi bon donc?
À quoi bon? En tout cas, ça permet peut-être de répondre à une demande. Ça permettrait peut-être, pardon, avec le conditionnel, de répondre à une demande, je veux dire, de la majorité des gens. Mais
c'est comme tout à l'heure pour l'argument économique. Oui, excusez-moi, mais c'est comme tout à l'heure pour l'argument économique. C'est si vous légalisez pour mettre fin au trafic de drogue, vous vous trompez.
Ah.
Très clairement, ça marche pas. Le trafic de drogue, il continue.
C'est ce qu'on entend voilà. énormément.
Oui, mais ça ne marche pas. Il n'y a aucun pays dans lequel ça marche. Ça réduit parfois la violence en Uruguay. Ouais. Ça réduit la délinquance associée parfois. Là-dessus, parce que, comme ça a été très justement rappelé, ils étaient confrontés à du narcotrafic. Enfin, là, on est à un autre niveau de violence et de criminalité. Mais effectivement, je pense que penser que légaliser le cannabis va étendre le trafic de cannabis, alors là, c'est se tromper. Ils vendront autre chose. Ils vendront un cannabis moins cher, plus fort, etc. Et on sait que chez les mineurs, c'est d'abord ça qui est recherché.
Réaction d'auditeur. Juste pour répondre, dit-il, à votre dernier intervenant sur la dangerosité du cannabis et les consommateurs qui, je le cite, se détruisent. Ce monsieur pense-t-il que les Hollandais soient des épaves après une consommation régulière et quasi générale? Que lui répondez-vous? Alors, c'est vous, je crois, qui avez dit que les consommateurs se détruisaient.
Moi, je ne suis pas médecin, mais j'écoute les médecins ce qu'ils me disent.
William Einstein.
Et les médecins le disent tous, c'est dangereux pour le. Ça a des impacts sanitaires.
Il faut le savoir, la Hollande n'a pas simplement fait des coffee shops. Elle a fait de l'information, y compris jusqu'à ses policiers, qui, quand ils voyaient un adolescent consommer ceci, cela, étaient capables de le conseiller, de l'accompagner, de discuter avec les parents. Il y a une très faible consommation de cannabis en Hollande par rapport à la nôtre. Donc c'est là où
c'est
je dis qu'il
d'ailleurs.
Faut vraiment travailler les différents sujets et changer de regard sur ces consommations. Mais pour ça, il faut pouvoir en parler un peu mieux et travailler beaucoup plus.
Je connais des médecins vraiment qui sont plutôt favorables, qui sont aussi addictologues, mais qui sont aussi docteurs, qui le disent tous, qui disent très clairement, il n'y a pas de penser que le cannabis serait un stupéfiant bio ou sans
anodin.
Conséquences sur le corps humain, c'est vraiment une ineptie absolue.
Et on rappelle que William Weinstein est favorable à la légalisation, ça n'empêche pas de dire
bien sûr, c'est
mauvais
pour
protéger. La santé.
Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de baisser les consommations et de protéger cette société, ces individus, si j'ose dire. Mais dernier point, des consommations précoces, intensives, régulières, c'est un handicap sûr chez l'adolescent. Donc c'est pas tellement drogue dure, drogue douce, c'est quels usages durs ou doux faisons-nous de ces substances psychoactives.
On tenait, voici les Rita Mitsuko sur Inter.
Alors c'est quoi que j'appelle?
C'est au siècle dernier, en 1999 précisément. Alors c'est quoi les Rita Mitsuko, extrait de l'album Cool Frénésie. On a parlé de cannabis avec mes trois invités. Et à l'approche de la fin de l'émission, j'ai une dernière question à leur poser.
France Inter, le débat de midi, Dorothée Barba.
On reprend nos bonnes habitudes de l'été dernier avec cette question rituelle. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, que ce soit récemment ou il y a très longtemps, hein, sur n'importe quel thème, la politique, la vie quotidienne, la musique, ce qui vous chante. On commence avec vous, Éric Poulia, sur quoi avez-vous changé d'avis?
D'abord, changer d'avis, je trouve que c'est une bonne chose.
C'est plutôt sain.
Voilà,
c'est tout l'objet de cette rubrique.
Voilà, tout à fait. Je pense que quand la pensée se fige, rien ne va plus. Donc j'essaie de rester fidèle à mes convictions, mes valeurs, mais mes avis, effectivement, ils peuvent évoluer. Donc ils évoluent en permanence.
Il met des précautions parce qu'il est député de La République En Marche et il faut justifier qu'on change parfois d'avis. Mais allez-y, lancez-vous.
Ouais. Moi, je pense qu'à partir du moment où je reste fidèle à mes valeurs, je peux changer d'avis. Je me nourris des avis des autres, justement, aussi. Voilà, donc il y a plein de sujets sur lesquels je pourrais, même rien que le sujet sur lequel on vient de débattre.
Un exemple, non ?
C'est difficile à...
Ah, il botte en touche. Hein.
Ouais, disons que je pense que... attention à la vie figée, quoi. À la vie, voilà. J'ai des valeurs. Je pense qu'effectivement, il faut ouvrir plus de droits à tout le monde. Je trouve que ça a été une réelle avancée, le droit au mariage pour tous. Qu'il faut avancer sur la question de.
Vous avez changé d'avis sur le mariage pour tous?
Non, j'ai pas changé d'avis, mais
on n'aura rien.
Voilà.
Mais au suivant, William Lovenstein.
Sur
quel sujet avez-vous changé d'avis?
Alors, je sais pas si c'est un changement d'avis ou une perte d'illusion. Mais je me souviens que quand j'étais pas bien jeune médecin, que ça soit en réanimation ou en m'occupant de mes patients sidéens atteints du VIH-Sida, j'avais une illusion qui était peut-être du niveau du Père Noël, c'est qu'en vieillissant, je me blinderais, que ça serait moins difficile. Et je vois que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus on exerce, plus les années passent dans cette profession, plus on se rend compte de... Voilà, du côté précieux de la vie, plus c'est difficile, pour le dire de façon égocentrique, je vous prie de m'en excuser, plus c'est difficile, voilà, d'être face à la maladie et surtout la mort. Et c'est pour ça que la dynamique à l'heure actuelle de protection, de prévention, elle a un sens pour moi parce que au bout de ces volontés, il y a vraiment des personnes qui sont nos patients qu'on aime, je vais le dire directement, qui peuvent être en vie, mais ça fait toujours aussi mal. Voilà, mon illusion, mon changement d'avis, c'est juste vous dire que je pensais qu'on se durcissait, pas du tout.
On ne se durcit pas avec le temps.
On ne se durcit pas avec la vieillesse, n'y voyez là aucune image.
Au pitié, Nicolas Prist, voilà. C'est à vous de jouer. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Oui, difficile de faire de l'humour après ce que vient de dire William.
N'hésitez pas pourtant.
Mais sérieusement, jamais je n'aurais cru m'endormir devant un match de la Coupe du Monde de foot jusqu'à hier où ce Russie-Espagne a été
une horreur
exceptionnelle. Non, sinon j'ai changé d'avis plusieurs fois et là je rejoins Eric, notamment quand la science m'y invitait en tant que médecin, moi aussi. Je me rappelle quand j'étais... Je faisais mes études, je pense qu'on prescrivait beaucoup plus l'argamanu des antibiotiques, et c'est pour donner un exemple, mais à un moment on nous a dit, parce que les études étaient très claires, il faut moins en prescrire, parce que vous hypothéquez l'avenir, et voilà.
Voilà, il a changé d'avis là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. William Lovenstein, je rappelle le titre de ce livre que vous co-signez avec quatre autres médecins, et notamment Bernard Kouchner. Toxique, le combat de cinq médecins de la drogue, c'est chez Odile Jacob. Pour ceux qui ont raté une partie de ce débat de midi, ça se passe sur franceinter.fr, la rubrique Le Débat de Midi. Et demain, on parle de la vie en EHPAD. Nos vieux sont-ils maltraités? J'attends les réactions des auditeurs.